Chapitre 50. L'approvisionnement ne doit pas être facile, pensa Vera Claythorne. C'est ça le pire sur une île. Les problèmes domestiques prennent des proportions effarantes. En parcourant ces lignes, Vera songea qu'elle ne pouvait pas tomber plus bas. C'était comme si son identité avait été construite à partir d'un personnage d'Agatha Christie. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça signifiait? Elle était Vera. Vera Claythorne, fille d'Odette et Jean-Pierre Claythorne. Elle ne l'avait pas inventée. Hasard. Il devait s'agir d'un gros, d'un incroyable hasard. Et puis, ça ne s'écrivait pas de la même manière. Subitement, elle se remémora la bibliothèque dans le salon de ses parents, les dos noirs collés les uns aux autres. Des romans policiers. Son père adorait. Alors oui, c'était certainement ça. Lui dont le nom était si proche de celui de ce personnage imaginé par la reine du crime, il avait appelé sa fille Vera. Vera Claythorne. Comme un clin d'œil, un hommage. Elle tourna les pages. Des phrases, régulièrement, étaient soulignées. Et furent autant de chocs qui l'enfoncèrent davantage dans l'incompréhension. « Ça ne doit pas être commode d'accoster ici par gros temps », fit observer Philippe Lombard. Son ancien collègue psychiatre, à Metz, s'appelait Philippe Lombard. Elle fronça les sourcils et poursuivit. Plus loin, quant à Miss Emily Brent, elle était manifestement en train de se demander si elle n'exécrait pas, au fond, les coloniaux dans leur ensemble. Le prénom Emily, celui de sa fille, était entouré. Vera, Philippe, Emily. Elle jeta le bouquin de toutes ses forces contre le mur en poussant un cri. Comment André avait-il pu faire une chose pareille? Qu'avait-il cherché à prouver en annotant un putain de livre? Qu'elle était folle? Est-ce que lui avait vu son propre enfant se noyer sous ses yeux? Est-ce qu'il se réveillait en pleine nuit, trempé de sueur, terrorisé par la violence de ses cauchemars? Non, il n'avait pas vécu un centième des souffrances qu'elle avait endurées, lui qui s'était terré dans cette forêt. Et pourtant, il s'était permis d'enquêter sur elle, alors que, à la radio, il avait été mielleux. À débiter ses fichues anecdotes de chasseurs de baleines dont pas un mot n'était vrai. Il aurait pu au moins lui parler de tout ça, venir au chalet en discuter avec elle. À ce moment-là, elle le détesta. Bien fait pour lui s'il était mort. Son cœur d'alcoolique avait lâché. Il n'avait eu que ce qu'il méritait. Elle s'empara alors du carnet. Affaire Vera Claythorne. Tout de suite, elle vit des flèches, des dates, des écrits brouillons, des trucs du genre. 13 juillet. À la hutte, Vera s'est confiée sur le drame terrible qui a coûté la vie à sa fille Émilie. Émilie avec un Y, a-t-elle précisé. Sur le coup, je n'ai pas tilté, mais l'autre fois, elle a évoqué un type de son ancien boulot à l'hôpital, Philippe. Plus tard, elle a précisé son nom, Lombard. Un personnage des 10 petits nègres. Encore un. Ça fait beaucoup de coïncidences. Il avait dessiné des carrés, des cercles, des gribouillis, comme lorsqu'on réfléchit avec un crayon à la main. Ces informations avaient dû lui mettre la puce à l'oreille et lui faire entamer ses investigations. Il avait ensuite tout soigneusement consigné là-dedans, à commencer en date du 27 juillet, par une photocopie de l'article consacré à la noyade de sa fille. Vera imaginait bien André s'être rendu à la ville, peut-être à la bibliothèque ou à la gendarmerie, pour fouiller dans des archives. Ça avait dû lui prendre des heures de dénicher cet encart avec le peu d'éléments dont il disposait. Dessus, il avait tiré une flèche depuis une fillette de 3 ans et avait inscrit « Mélissandre » au bout. À côté de « Échapper à la vigilance de sa mère », il avait noté cette fois « Bénédicte Lamordière ». En lettres capitales, tout en bas, il avait ajouté « Qui est Vera Claythorne ?» Elle se posait la même question que lui. Qui était-elle? La page suivante lui apporta une réponse. Le 2 août, André avait fait une recherche via l'immatriculation de sa Ford. Véhicule appartenant à Lisine Barthes, domicilié au Ménil-Amelot en Seine-et-Marne. Dans la foulée, elle tomba sur une copie de la carte d'identité de cette Lisine Barthes. Pas d'équivoque, c'était elle sur la photo. Plus ronde et les cheveux beaucoup plus courts, mais c'était bien elle. Elle scruta ce visage de longues minutes, abasourdi. Lizine Bart. Elle était Lizine Bart. Elle avait habité à des centaines de kilomètres d'ici, dans un bled aux alentours de Paris. À en croire ses notes, André avait immédiatement creusé cette piste et avait appris que cette femme était journaliste au Courrier Normand, à Rouen. En ville, il avait téléphoné à la rédaction, s'était fait passer pour un cousin qui souhaitait la recontacter et s'était entretenu avec un de ses collègues. D'après lui, Lizine avait pris des congés pour mettre en vente sa maison du Ménil, mais n'était jamais revenue. Ils avaient essayé de la joindre, en vain, avant de signaler sa disparition. Vera était sidérée par ce qu'elle lisait. Elle n'avait donc pas exercé la psychiatrie à Metz, y avait encore moins soigné de patientes du nom de Sophie Henrichs. Tout cela n'était que pure invention. Pourquoi ? De quoi souffrait-elle ? Comment avait-elle pu se glisser dans une vie qui n'était pas la sienne et intégralement oublier son existence d'avant ? Elle avait des visions, elle entendait des voix. Et elle avait vécu des mois dans cet état, dans cette peau étrangère, sans se rendre compte de rien. Alors qu'André, lui, avait su dès l'été. Il était simplement mort avant d'avoir pu la confronter à la réalité. En continuant à feuilleter le carnet, elle découvrit avec effroi les clichés d'un miroir brisé, ainsi que ceux d'un labyrinthe dessiné dans une baignoire et qui grimpait jusqu'au carrelage mural. Ils étaient accompagnés de commentaires. 17 août, Vera avait loué une chambre chez les deux Grimm la veille de son arrivée au hameau en avril dernier. Après son départ, les propriétaires ont pris des photos des dégradations commises, juste au cas où, mais ils ne voulaient pas de problème et n'en ont parlé à personne. Plus loin, 22 août. Je viens de me renseigner auprès de la responsable de l'association Zéro Onde sur la manière dont Vera a intégré le programme. Elle m'a raconté que leur rencontre s'était faite de façon complètement impromptue. Vera a débarqué, elle semblait en grande détresse psychologique, elle avait les chaussures ainsi que le bas du pantalon plein de boue, un léger hématome à la tête. Elle ne voulait plus retourner à la ville. Elle lui a décrit avec précision les symptômes provoqués par son hypersensibilité et l'a supplié de l'aider. La responsable m'a expliqué que tout ce qui restait à Vera de sa vie d'avant était un petit bagage dans le coffre de sa voiture. Et comme l'hiver précédent, il se trouve que l'ancien psychiatre qui logeait dans le chalet proche de la rivière avait dû quitter les lieux à cause d'un cancer, elle lui a proposé de s'y installer. Vera n'en revenait pas, car elle était également psychiatre. Aussitôt, avec beaucoup de naturel, elle s'est mise à aider pour les travaux, comme ça, comme si elle était là depuis toujours. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Autre feuillet, autre révélation. Et encore des pages noircies d'observations, de communications radio entre eux qu'il avait retranscrites en soulignant les incohérences. Elle tourna, tourna jusqu'au bout. 5 septembre, 8, 13. 13 septembre, je m'étonne de jour en jour de l'ampleur de cette histoire incompréhensible. Rien de ce que Vera me raconte n'est vrai, tout n'est qu'invention. Et le pire, c'est que j'ai la certitude qu'elle ne sait même pas qui elle est elle-même. Elle pense vraiment être Vera Claythorn, une hypersensible. Elle continue à me raconter des anecdotes de l'époque où elle était psy. Elle doit les puiser inconsciemment dans les bouquins de sa bibliothèque. Elle chiale quand elle évoque la petite noyée qu'elle prend pour sa fille. Merde, comment c'est possible? Il a dû se produire quelque chose d'extrêmement grave dans sa vie d'avant pour en arriver là. Un truc qui a dû lui griller une partie de la caboche. 21 septembre. Je ne sais pas quoi faire, je dors mal. Nolan n'est pas au courant de tout ce bordel, ça fait des semaines qu'on ne s'est pas appelé. On ne s'est pas réconcilié après cette connerie d'histoire de permis de chasse. Mais il va falloir que je discute de ça avec quelqu'un. C'était la dernière phrase qu'André avait écrite. Ensuite, il avait dû rendre l'âme, installé au fond de son fauteuil dans la hutte, l'œil rivé sur la surface de l'étang. La jeune femme se concentra de nouveau sur la copie de sa carte d'identité. Cette autre elle, Lizine, ne pouvait pas avoir complètement disparu. Elle devait être repliée, recroquevillée quelque part dans un coin obscur de son cerveau, apeurée. Vera savait que nombre de maladies psychiques provenaient d'un traumatisme. Mais quel monstre avait bien pu contraindre Lizine à s'effacer ainsi ? Quel être maléfique rôdait autour de son chalet, dans la forêt? Était-il le fruit de son imagination lui aussi, ou existait-il vraiment? Elle ignorait combien de temps elle était restée immobile face au reflet de son désespoir. Mais quand elle releva ses yeux humides, les rayons du soleil se dispersaient déjà entre les troncs, légèrement inclinés. On devait avoir passé le milieu d'après-midi. Dans une heure, les ténèbres tomberaient. Elle ne pouvait plus s'attarder davantage dans ce congélateur. Elle se redressa, glissa le carnet dans sa poche et enfila son sac à dos. Un long et douloureux chemin de croix l'attendait.